Pierre-Louis, Danaé ou le malheur. Chapitre 1. Ce jour-là, il faisait beau. La tristesse laissée par le conte de la veille s'évanouit avec la brume. Les femmes coururent dans les bois, il y eut sur le chemin de grands éclats de rire. L'exubérance de ce printemps faisait plier les branches des arbres et déborder les prairies le long des sentiers étroits. Les larges fleurs frôlées en passant laissaient des traces jaunes au bas des tuniques. Une mer de violettes baignait le pied des cèdres, les promeneuses s'y couchèrent en rond. Et comme l'heure était venue de peupler cette forêt déserte de personnages fabuleux, Réa, jeune fille sans détour, pour qui les mots n'avaient pas de sens profond, crut exprimer le désir de tout en demandant à Thrasès un conte sur le bonheur. « Oui, oui !» s'écria Lampito. Mais Amaryllis s'élança. « Oh non, non, pas cela, surtout. Il faut pas parler du bonheur. Celui qui parle de sa joie l'abandonne mot par mot. Celui qui parle de la joie des autres augmente son propre chagrin. C'est un conte sur le malheur que je vous conterai aujourd'hui. » Le malheur ne sème que la pitié, qui est douce et bienfaisante. Dans le malheur de Danaé, chacune de vous reconnaîtra le sien, et vous vous sentirez heureuse au souvenir des chagrins perdus. » Alors tous, sans répondre, firent cercle autour d'elle, et elle continua ainsi. La nuit montait à l'ouest comme une vapeur bleue. Il n'y avait pas de lune. Les étoiles paraissaient faiblement, ici et là en gouttelettes. La mer était devenue si calme qu'elle reflétait la lueur la plus indécise et le petit bateau semblait suspendu au centre d'une sphère céleste. Pourtant, ce miroir se troubla, et si Danaé n'eût dormi, elle eût sans doute frémi d'effroi. Une main était sortie de l'eau. Cette main n'était pas semblable à celle des femmes de la terre, car elle était bleue au dehors et la paume était de couleur d'or, comme si elle avait caressé le soleil plongé sous la mer. La main s'éleva, saisit le rebord du bateau, le bras tout entier apparut, et bientôt flottèrent sur l'eau les premières boucles d'une chevelure verte, puis les yeux mouillés, la bouche et le corps luisants émergèrent. Et c'était Féroussa aux joues douces, l'une des divines Néréides. Elle prit l'enfant dans ses bras, non certes pour le ravir, mais pour lui sauver la vie, car elle lui eut entre les lèvres le bout allongé de sa mamelle fraîche, et l'enfant but et fut rassasié. Et auprès d'elle apparut, une ombre belle, mais son égale par la grâce des mains et des bras, la parfaite Évagorée, née comme elle du vieillard Néréus et de Doris aux beaux cheveux. Elle tenait à la main l'ange de pourpre clair dont elle vêtit le petit être, afin que le souffle mortel de la nuit ne le fît pas descendre avant l'heure fixée dans les noires demeures souterraines. Et auprès d'elle surgit encore Autonoé au bon caractère, qui prit l'enfant à son tour et le berça au-dessus des eaux. Pinoso et Kimotoé, Actaïe, Protomédéia, toutes quatre irréprochables. Et elles élevaient avec elles, du plus profond de l'abîme, une vasque si large et si éclatante que les plongeurs les plus hardis n'ont rien vu qui en approche. Et Psamathée parut elle aussi, Psamathée aux mains transparentes, et Mélitée aux ongles verts, et Thaliée aux oreilles rouges. Et elles s'emparèrent doucement de Danaé endormie, et elles la déposèrent dans la vasque évasée sur un lit d'algues molles et de fleurs sous-marines. Et Proto, qui dépasse toutes ses sœurs à la nage, et Eucratée aux lèvres tendres, et Sao qui sonne de la conque, et Spéo qui chasse les dauphins, tirèrent le bateau par la poupe, et la mer stérile y entra, et il s'engloutit en tournant. Toutes les autres Néréides émergèrent alors, et tout à coup Erato, qui jette sur la mer les feuilles de rose du crépuscule, Œnaïkès, dont les cheveux sous l'eau arrêtent les vaisseaux rapides, Amphitrite, dont les yeux brillants apparaissent au creux des vagues vertes, Galène, qui sait aplanir la houle, Pantoporeia, qui soulève les eaux, Nessalée, qui parut une huile aux voyageurs d'Occitanie, Thémisto, qui ravit l'étoile, Irilis et l'a mis pour bague à son orteil blanc, qui mate les guets, qui recueille et qui boit la mousseuse écume, Lacianassa, qui commande aux fonds ténébreux de l'océan, Hippothorée, qui laisse passer les nefs noires entre ses jambes nues sans que les plus hauts mâts l'atteignent, Doris et Almédié qui se tiennent par la main, Évarnée aux longs cils, Agavée aux doigts légers. Et quand elles furent toutes réunies, comme un grand nuage flottant autour de la vasque lunaire, le grand vieillard de la mer apparut en avant. C'était Néréus, couronné d'algues, l'immortel de qui était née la race charmante des déesses. Il fit un signe, et le cortège de ses filles le suivit. Et au milieu d'elles flottait, entraînée, la vasque pleine de clarté glauque, où dormait la blanche Danaé, avec l'enfant Perséus sauvé des eaux inexorables. Et l'apparition des figures divines se continua démesurément. On vit surgir, tour à tour, Protée, ces phoques monstrueux nés de la belle Halocyone, Atlas, qui devait être vaincu par l'enfant, Thomas, l'éclatant époux d'Electra, père de la cérulée Iris et des trois vierges harpies, Inolocotoé, qui subit la mortalité par amour pour son fils, le Mélicerte, Glaucos, qui est masqué là, Charybdé redoutable aux marins, et Phorcys, dieu des orages et de la mort sur la mer. Et les plus terribles de ces dieux s'étaient apaisés pour mener vers la terre la jeune femme enveloppée dans son rêve. La foule brune des tritons aux boucles lipues, aux mains calleuses, nageait plus doucement qu'un passage de sardines. Ils avaient bourré de goémons la gueule torse de leur conque, afin que même la brise du matin n'en fît pas vibrer la rumeur lointaine, et ils s'avançaient gauchement, comme s'ils avaient peur de remuer la mer. Mais le sillage de cette multitude s'épanouissait jusqu'aux deux horizons. Chapitre 3. Quand Danaé revint à elle, son enfant était couché dans ses bras et elle-même reposait sur un lit royal de byssos pourpré. Aux premières questions qu'elle posa, on lui répondit que les divinités de la mer l'avaient fait aborder à l'île de Sériphos, où régnait depuis peu de temps le héros Polydoctès, et qu'elle était dans son palais. Elle vécut là, éleva son fils, tissa la laine et cueillit des roses. Sa vie était heureuse et sans événement. Pour rester fidèle au souvenir de l'or, elle a refusé même la main du roi. Elle ne parlait à personne, si ce n'est à sa vieille nourrice qui, d'Argos, était venue la rejoindre et ne la quittait plus. L'enfant grandissait. 12 années s'écoulèrent. On lui avait donné un arc et des flèches et une petite épée tranchante. Aussi passait-il déjà toutes ses journées à la chasse, seul, et parfois égaré dans la vaste forêt peuplée de bêtes, quelques-unes divines. Il faisait dans ses alliés sombres des tueries miraculeuses. Un soir, il revint en courant, trempé de sueur et taché de sang. 2 pieds de bouc sortaient de son carquois. Et dès qu'il eut aperçu Danaé, il cria « Bonne chasse, mère ! Oh, j'ai couru tout le jour dans les bois à la poursuite de ce petit satyre insolent qui s'était moqué avant-hier de ma lèvre nue et de mes jambes pâles. Je l'avais suivi à la trace dans la terre molle et sur les rochers égratignés par ses pattes. Je l'ai rencontré au bord de son antre. J'ai jeté mon arc dans les branches, et nous avons lutté corps à corps. Oh, il était vigoureux, mère, j'ai tout fait dans son étreinte. Mais j'ai empoigné tout mon paquet de flèches, et d'un seul coup je l'ai plongé dans son flanc maigre. Ah, il a poussé un grand cri, et s'est effondré sur l'herbe comme un sanglier blessé. Alors je lui ai coupé les deux pattes, et je te les apporte en trophée. » Danaé frémit à l'impiété de l'enfant, et la vieille nourrice voila les yeux, car elle voyait dans cet acte insensé le présage et l'avertissement d'un grand malheur à venir. Et en effet, ce fut le lendemain qu'arriva l'événement fatal. De tous les jardins, de tous les palais, de toutes les richesses de Polydectès, Danaé avait la jouissance hors un sentier, une porte, un caveau. Depuis de longues années, elle songeait à l'interdiction perpétuelle de ce seul point de la terre, et elle avait fini par imaginer que ce petit caveau défendu renfermait à lui seul toute la somme de bonheur qu'elle ne connaissait pas, toutes les joies inconnues qu'elle désirait au-delà de sa vie. Le lendemain de ce jour, elle pénétra dans le sentier. Elle ouvrit la porte. Elle descendit la première marche, la deuxième, jusqu'en bas. Et la nourrice accourut et elle cria : « Danaé, Danaé, vous avez tort de venir ici. Il ne faut pas descendre, Danaé. On vous l'a défendu, vous le savez bien. Pourquoi voulez-vous toujours faire ce qu'on vous défend ? Il n'y a qu'un lieu du monde où vous ne devez pas aller, c'est celui-là que vous voulez voir. Vous ne sortez jamais, vous ne quittez pas votre chambre, sinon quand le soleil se couche ou quand un orage fout droit. Mais vous n'allez pas dans les autres villes. On ne vous voit même pas dans les champs. Vous ne seriez jamais venu ici, vous ne l'auriez jamais voulu, si je ne vous avais pas dit que Polydectès le défendait. Alors pourquoi vous ai-je dit cela? Et pourquoi ai-je parlé, puisque vous ne demandiez rien? Je suis sûr que cela retombera sur vous. Encore une fois, écoutez-moi, Danaé. Je sais pourquoi on vous défend ce que vous voulez faire aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire, mais je le sais, je le sais, je le sais. Il s'agit de votre bonheur à vous, je vous le jure, par vos beaux cheveux que j'ai vus croître, par vos beaux yeux que j'ai tant de fois endormis, par votre belle bouche que j'ai nourrie quand vous étiez toute nue en mes bras comme un petit éros de cire. Danaé, Danaé, ne descendez pas cette marche, n'entrez pas dans cette cave, n'ouvrez pas les portes ici, ne touchez pas aux serrures, ne tournez pas les clés des reins. C'est votre malheur qui est là, c'est la douleur de votre vie. Quand on connaît son malheur, il faut l'oublier pour toujours, mais quand on ne le connaît pas, il ne faut pas l'aller chercher, Danaé. Retournez-vous. Éteignez votre lampe, retournez vers le jour, allez-vous-en d'ici, n'y revenez jamais, n'y pensez jamais, allez-vous-en de la mort, allez-vous-en de la nuit. » Danaé parla d'une voix lente. « L'huile s'est répandue sur mes mains, elle est tombée sur mon pied nu, je tremble, vois-tu, nourrice? Tiens ma lampe, je ne peux plus la porter. Oh, je suis toute couverte de parfum. J'aurais dû tout verser dans mes mains, mais nous avons besoin de la lampe. Éclaire-moi, nourrice. » La nourrice pleura. Elle est entrée, c'était son destin qu'elle entre, c'était son destin qu'elle fût malheureuse. Ayez pitié de nous, divinité bienveillante. Et Danaé répondit : « Oh, je sais bien à peu près ce qu'il y a derrière cette porte. Le malheur, c'est toujours la même chose. C'est un bonheur ancien qui ne veut pas recommencer. » Et elle continua comme en rêve. « Quel bonheur ai-je jamais qui fût égal à celui-là? Je sais bien ce qui va arriver, c'est-à-dire, je ne le sais pas tout à fait, mais je devine bien à peu près. Éclaire-moi plus haut, nourrice, je vais ouvrir la porte. » Ce n'est même pas la porte du tombeau. C'est quelque chose de plus horrible. C'est... Oh, je ne peux pas vous le dire. Vous le verrez, Danaé. C'est votre destin. Que vous le voyez vous-même, on ne peut plus vous en empêcher. Vous-même ne pourriez plus vous en aller d'ici. La porte n'est pas lourde. Les longs sont luisants. On doit l'ouvrir souvent, cette porte, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il qu'on s'occupe tant de mon malheur et qu'il n'en paraisse rien dans les yeux? Ou bien peut-être est-ce un malheur pour moi seul et un bonheur pour tous les autres? La porte va céder. Je n'aurai qu'à la toucher du bout du doigt. Je sens qu'elle va tourner toute seule. Vois-tu, tiens, vois-tu, vois-tu? Un monceau de pièces d'or s'écroula autour d'elle par la porte grande ouverte. Elle poussa un cri effrayant. Oh, Zeus! Oh, mon amant! Elle se jeta à terre dans le trésor ruisselant. Hélas, hélas, dit la nourrice, hélas, cela devait arriver. Danaé avait rejeté sa tunique, sa ceinture, ses rubans brodés. Zeus adoré, Zeus aimant, Zeus tendre, je t'ai donc revu enfin et comme autrefois dans une prison d'airain. C'était toi qu'on cachait dans cette nuit souterraine, Dieu foudroyant. Depuis qu'on m'a laissé libre, c'est toi qu'on a voulu murer. Et moi, je mourais sous le soleil, ignorant la retraite où se cachait ta splendeur, par qui percée a grossi dans mon sein. Amant, amant, je suis là. Éveille-toi, anime-toi, soulève-toi. Je suis Danaé, Danaé. Et elle se roulait sur le métal glacé. Tu ne m'entends pas? Oh, que tu es froid. Mes mains sont comme dans la neige. Ah, il retombe. Il ne me connaît plus. Non, ce n'est pas lui, nourrice. Dis-moi donc que ce n'est pas lui. J'avais bien deviné ce qui arriverait. Je ne vois plus. J'ai mal dans les bras. Venez, Danaé, dit la nourrice, venez. Remontez tout de suite, il ne faut pas rester plus longtemps ici.